Vous êtes sur RTL.
De football et qu'il soutenait. C'est Jean-Michel Rascol qui me donne cette précision. On le réécoutera, le son de Noël Le Graët, parce qu'il est important, parce qu'effectivement, dans cette atmosphère-là, chaque mot, c'est un peu comme en politique. Chaque mot est important. Et de dire « je vais discuter avec Didier Deschamps » et de dire qu'il va discuter, ça fait sens, Cédric. Mais alors vous, pour prolonger votre raisonnement, vous êtes pour changer de sélectionneur ?
Alors,
parce que en clair, on ne va pas se raconter de salade. Zinedine Zidane est libre en ce moment.
On ne va pas se raconter de salade. Je veux dire, toutes les grandes équipes, et l'équipe de France en 98, en 2018, ou les différents Euros, Coupe du Monde, toutes les grandes équipes ont gagné avec une belle défense. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la France, elle est une attaque extraordinaire. Il y a Griezmann, il y a Benzema, il y a Mbappé, il y a Coman, il y a Ben Yedder. Et Didier Deschamps n'est pas fait pour ce type d'équipe. On ne va pas se mentir, Didier Deschamps, ce n'est pas quelqu'un qui joue l'attaque.
Franchement, quand il était à Monaco, il avait une attaque de feu avec Morientes, et puis il est allé en finale de Coupe d'Europe.
Ah, mais c'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas être
Il s'est adapté à ses équipes. Oui. Moi, je veux bien qu'on fasse le procès de Deschamps. Il a fait son temps, il a 50 ans.
Non, mais il a fait son temps, pardonnez-moi cette expression, pour dire ça fait un moment maintenant qu'il est en équipe de France. Il est peut-être temps d'avoir un œil nouveau, un œil neuf et de voir autre chose. Bon. Maintenant, ça n'enlève rien à la grandeur de Didier Deschamps. C'est un homme
extraordinaire, Didier Deschamps. Écoutez, Cédric, on va d'abord marquer une première pause. C'est l'avis des auditeurs. Moi, j'attends tous les auditeurs. Je ne vais pas raconter de salade. Moi, je suis un fan de Deschamps. Voilà.
Ah, mais moi aussi.
Donc je c'est donne ça, ma position. Moi je l'adore. Je trouve que il a tellement donné au foot français que j'ai pas envie aujourd'hui de dire du mal de lui, même si c'est une défaite. Et en plus, je le répète, je les ai vus tellement bons contre l'Allemagne. Et en quatre matchs, c'est une équipe différente. Alors peut-être sont-ils fatigués, peut-être sont-ils même cramés, je n'en sais rien. Mais on est avec les auditeurs, on va être avec Sarah, parce qu'hier elle était très offensive, Sarah, et on va voir si Sarah est aussi offensive aujourd'hui.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent qui était triste ce matin parce que vous êtes un vrai passionné de football.
Bah oui, comment ne pas être triste après ce résultat? On espérait tous aller jusqu'au bout, cher Pascal. Et là, malheureusement, on a vu le résultat avec cette élimination en 8e de finale. Alors certains parlent de claques, désillusions, immense échec, anéanti. Et c'est vrai que les Bleus se sont effondrés dans ce 8e de finale de l'Euro, battus par la Suisse au tir au but. La réaction d'Didier Deschamps.
Si on s'arrête aujourd'hui, c'est qu'on ne mérite pas plus et ça fait mal, mais il faut l'accepter.
Le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, s'est dit très déçu. Il va discuter avec Didier Deschamps, mais les Bleus, se sont-ils vus trop beaux? La réponse de notre consultant RTL M6, Robert Pires, ce matin avec Yves Calvi.
C'est surtout de l'envie qui m'a un peu gêné ou dérangé hier sur certaines périodes de la rencontre. Et le collectif hier, il a pas été bon, il n'a pas fonctionné. L'attitude sur le terrain n'a pas été bonne du tout même.
Comment avez-vous vécu ce match? Eh bien, Sandrine, sur la page Facebook de l'émission, se dit déçu, les Bleus méritaient de gagner. Comment voulez-vous l'emporter, demande Bruno, avec une équipe qui ronronne en première mi-temps et qui se croit à l'abri à 3-1. Quel gâchis, déplore Sylviane. Bravo aux Suisses, lance William, c'est mérité. Leur but montre nos lacunes en défense. Frédéric s'énerve sur nos réseaux sociaux. Ce n'est pas avec des individualités que l'on construit une équipe, mais avec des joueurs et des valeurs. Et pour Patrick, on s'est vu trop beau. Bonnes vacances aux Bleus.
Merci Laurent. On est donc avec Sarah. Sarah, vous nous avez appelé hier, c'est bien cela?
Oui, tout à fait. Bonjour Pascal.
Vous habitez Avignon et vous trouviez notamment que Pogba n'était pas excellent et que Benzema avait été très bon. Donc ça, c'était avant le match d'hier.
Oui, je réitère ce que j'ai dit. Benzema a marqué deux buts, a communiqué avec Loris pour qu'il part du bon côté. Ça a fonctionné. Et je me rappelle parfaitement de la phrase que je vous ai dite hier, en disant Benzema ne peut pas tout faire. Et je vous avais dit également que j'étais loin d'être certaine que la France puisse passer.
On était tous inquiets, vous n'êtes pas la seule à l'avoir dit hier, puisque
vous m'avez dit que j'étais un petit peu...
Non, je vous trouvais dur sur Pogba.
Oui, j'ai toujours le même avis.
Qui marque un but extraordinaire hier soir, mais qui, sur l'égalisation suisse, fait à ce niveau-là, à ce moment-là, une faute impardonnable. Impardonnable. Exactement. Ça, le ballon qu'il perd à la 90e minute, c'est impardonnable. Ouais. Pour le coup, c'est impardonnable.
Tout à fait. Donc, on est à... On est déçus. Enfin, moi, je suis surtout déçue pour Karim Benzema, parce qu'il n'aura pas le titre de champion d'Europe. J'espère quand même qu'il aura le ballon d'or. Mais
vous, j'ai l'impression que vous êtes plus une fan de Karim Benzema que de l'équipe de France, parce que vous ne voyez manifestement les Bleus qu'à travers Karim Benzema.
Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est un peu ma faiblesse.
Mais pourquoi pas, hein, chacun aime le foot. Chacun a ses tropismes, comme dit l'autre. Hein.
Exactement. Maintenant, pour en revenir à l'équipe et au jeu, c'était très pauvre, quoi.
Mais c'est très pauvre en première mi-temps, mais pas en deuxième.
Oui, mais quand on arrive à mettre trois buts d'affilée et puis se faire remonter comme ça avec un but d'école, le deuxième but de la suite, Pascal, quand on a 10 ans, c'est quand on est. Il y avait aucune défense, ok, sur ce but-là. L'attaque, moi, ce que j'ai déploré, c'est le manque de connexion, hormis Rabiot et Benzema. Toujours pareil, Griezmann qui repart en arrière, qui ne veut pas faire de passe à Benzema, clairement. Certains veulent marquer tout seuls, ils veulent absolument marquer un but parce qu'ils sont un peu frustrés de ne pas avoir marqué pendant l'Euro. Moi, je suis très attristée malgré tout pour Mbappé, parce qu'il va prendre cher. À 22 ans, louper un but comme ça, bon, c'est arrivé à de très grands joueurs. On rappelle de Roberto Baggio à l'époque, par exemple. Mais maintenant, voilà...
Mais en plus, il a manqué son euro, parce qu'au-delà du pénalty, en fait, son pénalty symbolise son euro manqué.
C'est cela. Et honnêtement, hein, sans aucune... quand je l'ai vu se présenter au point de pénalty, j'étais certaine qu'il allait le louper. C'est assez affreux ce que je dis, hein. Alors que c'est vraiment un excellent joueur. À 22 ans, il va apprendre qu'on ne gagne pas à tous les coups. Et c'est vrai qu'il était vraiment en demi-teinte lors de cet euro. Est-ce qu'il était effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, cramé? Mais dans ce cas-là, on compare à Benzema qui a fait je ne sais combien de matchs en Liga, qui me paraissait beaucoup plus frais que la plupart, alors qu'il est plus âgé aussi. Je pense qu'il y a un manque de préparation également. Peut-être un peu aussi de prise de grosse tête un petit peu, parce que bon, ils sont quand même champions du monde. Mais c'est pas la première fois. Je sais pas si vous vous rappelez, les Allemands, ils sont sortis aussi aux autres championnats après avoir gagné la Coupe du Monde. Souvent, lorsque les grosses équipes gagnent la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe, le tour d'après, ben, ça se passe pas très bien. Je pense qu'il faut renouveler, mais surtout, là pour le coup, bon, moi j'ai jamais été pro des champs, c'est facile de tirer sur l'ambulance, mais là effectivement je pense qu'il faut un changement immédiat.
Donc vous pensez qu'il faut se séparer de Didier Deschamps?
Oui, clairement, maintenant je pense qu'il a fait son temps.
Donc qu'est-ce que travail. vous êtes dur, hein. Vraiment.
J'ai
vous
jamais
êtes...
été fan de Deschamps, hein. Jamais. Vous l'êtes, donc on peut pas se comprendre.
Il est champion du monde.
Oui, d'accord, mais...
Champion du monde, il est dans le foot depuis toujours, il a été champion du monde comme joueur, champion du monde comme entraîneur, il a été champion avec Marseille, c'est la dernière fois que Marseille a eu un titre. Partout où il est passé, il a réussi.
Mais j'ai jamais été fan, je n'aime pas son jeu. Voilà,
Oui, parce que c'est à l'italienne, Didier Deschamps, souvent. C'est pas, l'important, c'est de gagner pour Didier.
Gagner, oui. Tout à fait. Après, bon, je suis également une fan de Zinedine Zidane, donc je ne suis pas très objective.
Ah oui, mais c'est sûr que là, il y a une partie de la France qui va vouloir Zidane. En tout cas, merci, Sarah.
Ben, je vous en prie.
Merci et passez néanmoins une bonne journée. J'ai réécouté ce matin, Greg, la joie de nos amis commentateurs Georges Rau et Sanfourche au moment du but français et vraiment et du but de Pogba. J'ai les ai trouvés formidables tous les deux. On pourra les réécouter tout à l'heure ?
Ah, bien sûr, je crois qu'on peut même on peut ne pas tarder à l'écouter. Si
allez,
ça vous fait plaisir maintenant,
allons-y,
faisons-le tout de suite.
Allons-y. Mais qu'est-ce qu'ils disent exactement là? Ils disent quoi?
Polo.
Ah oui, polo. Ah, polo, bien sûr.
Quel esprit de déduction.
Mais non, mais vous avez raison, Polo. C'est moi qui suis un peu en retard ce matin. Non, mais il est bien ce but. C'est un but tellement extraordinaire.
Vous voulez écouter aussi la réaction quand... Non, je plaisante.
Quand Mbappé manque.
Non, je ne l'ai pas. C'était une
non, mais en plus, je l'ai écouté ce matin. Donc, ils sont dans l'avion, nos amis journalistes, en ce moment. Autrement, Nicolas, on vous dit tout, hein, Nicolas Georges Rau et Philippe Sanfourche, ils sont en train de revenir à Paris, pour Paris. Donc, on pourra les écouter peut-être dans les prochaines éditions d'RTL. Pour le moment, nous marquons une pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Didier Deschamps qui perd le mojo. Kylian Mbappé qui passe à travers cet euro. Des défenseurs blessés qui perturbent l'équilibre. Et plus peut-être, c'est vrai, un poil de suffisance. Certains auditeurs le disent. Plus, enfin, soupçon d'insolence. Pourquoi pas un déficit de vaillance, que sais-je. Patrice est avec nous. Il est éducateur de foot. Il habite Blois. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Votre analyse de cette élimination.
Bon, moi, je pense qu'elle est simple. Déjà, dès le départ, dès qu'on a commencé l'euro, je pense qu'il y avait déjà des difficultés. On sortait déjà des différents championnats, Coupe d'Europe et ainsi de suite, et les joueurs déjà avaient déjà une fatigue. Ça, ils n'étaient pas en une préparation aussi, ils n'ont pas eu la préparation nécessaire pour adapter ce championnat d'Europe. Et puis, ils ont attaqué avec l'Allemagne, qui est déjà une belle puissance. Donc, physiquement, on a quand même morflé, certes, on a fait un résultat. Qui derrière, on a eu des équipes dans la poule, qui étaient assez faciles, mais bon, c'était quand même des résultats assez médiocres pour moi. Vu les joueurs que l'on a dans notre équipe, avec le niveau qu'ils ont, de pouvoir se retrouver en difficulté, et surtout d'avoir une certaine souplesse dans le jeu. En fin de compte, il n'y avait pas de rigueur. On laissait venir. Ça allait. Il y avait des trous entre les milieux. Le milieu et la défense. Les blocs ne suivaient pas. Donc on se retrouve à des moments. C'est pas terrible, quoi. Le jeu, pour moi, ne m'intéressait pas trop. Il n'y avait pas cette hargne comme dans les qualifications où là, c'était plus mordant. Et puis là, dans le dernier match, on s'est retrouvé en 3-5-2. Donc là, 3-5-2.
Parce qu'il y avait des blessés. Et 3-5-2, ouais. Je le précise pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde n'est pas spécialiste évidemment de tactique, et notamment peut-être qu'y a-t-il un public féminin qui n'est pas encore averti aux choses du football. Donc 3-5-2, c'est 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 2 attaquants.
Donc, 2 attaquants. Voilà. Et donc quand on a fait 3-1, donc on avait 3-1, il fallait repasser en 4-4-2. Ça aurait été, je pense, l'une des techniques pour pouvoir maintenir le score.
Je suis d'accord avec vous, mais là on est pointu. Convenons-en, oui, Patrice, que là, après, vous êtes éducateur de foot, vous êtes un professionnel de la profession. Mais là, je ne voudrais pas qu'on entre trop dans la tactique,
non.
Forcément.
Non, non, non.
Pour ne pas perdre nos amis auditeurs qui ne sont pas aussi pointus que vous.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Là. Mais si vous... Salut. Et le problème, c'est qu'il
passe, à qui
c'est
vous que... dites bonjour, là, si non, vous me permettez.
À des amis qui passent.
À des amis qui passent. Bon, et vous leur dites, mais vous êtes où?
Là, je suis au bord d'une route. Là, je suis pas là.
Et au bord d'une route, il y a des amis qui passent.
Voilà, dans un café, et puis on est là, c'est pour ça. Et bon. Donc, le souci, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il faut maintenir un score. Là, vu la remontée qu'ils avaient fait, on sentait qu'il y avait une faiblesse. À, je sais pas, à 10 minutes de la fin, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de réguler, quoi. On essaye de poser le jeu.
Mais il a sorti Griezmann. Deschamps, il sort Griezmann, il fait rentrer Sissoko. C'est bien qu'il voit bien le danger.
Mais là, on avait quand même des bons joueurs, quand même. Sissoko, c'est pas.
Ben oui.
Pas le dernier. Il y avait des bons joueurs qui pouvaient remplacer. À 10 minutes, un quart d'heure de la fin, on peut se permettre de changer certains joueurs qui étaient fatigués. On l'a vu, ils n'en pouvaient plus. Comme le dernier but, là, sur. Où Pogba, malencontreusement, fait. Perd le ballon. Après, là, dans la défense, il y a un trou énorme. C'est pas normal. Normalement, on doit tout resserrer et être proche de la défense, de l'attaquant. Et là, il a fait ce qu'il a voulu. Et voilà.
Je vais vous citer un petit tweet de la Provence d'un journaliste qui s'appelle Alexandre Jacquin, qui est chef adjoint du service des sports. Et qui dit le PSG Neymar ont transformé l'un des joueurs les plus doués de la planète en un attaquant exaspérant qui, au lieu de faire la différence, agace maintenant toute la France. Pour le bien des Bleus, il est temps qu'il rejoigne enfin un grand club et reprenne sa marche en avant. Bon, je précise qu'Alexandre Jacquin, que je ne connais pas, est journaliste à la Provence, donc est plutôt marseillais et qui a aussi une petite pointe au PSG. Mais c'est vrai que ce tweet m'intéresse parce que je le trouve pertinent. En tout cas, on peut discuter. C'est vrai que Mbappé est aujourd'hui parfois un poil agaçant, disons-le, dans son jeu, dans son comportement.
Et puis en plus, je pense que aussi les grandes équipes l'attendaient. même les autres équipes.
Ah oui, mais ça, c'est le jeu de tous les grands joueurs.
Sur le marquage d'un joueur comme Mbappé, on est deux ou trois. Deux. Mmh. Il y avait deux, l'arrière-droit, il y avait le 4, ou alors il y avait le 5. Toujours, il y avait deux joueurs. Et à chaque fois, il ne pouvait pas se retourner, il était bloqué. Et c'est sûr que pour un joueur de son niveau, ça, c'est agaçant, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et en plus, ça, physiquement, il peine, psychologiquement, ça, c'est agaçant. Donc, il y a un moment dans le match, l'équipe, ça perturbe l'équipe parce qu'on n'arrive à rien faire. Le jeu ne se développe pas. Là, on a vu hier, la première mi-temps, je me demandais où était l'équipe de France, quoi.
Eh ben, merci Patrice. Merci vraiment beaucoup de cette analyse. Vous n'avez pas envie de nous remonter le moral, Greg, avec un cadeau peut-être aujourd'hui?
Ah ben, si, avec
mais
plaisir.
Bon, c'est les Bleus et ça sera même toujours les champions du monde.
Pas faux, pas faux.
Greg. Un cadeau, bien sûr. Va ouvrir la billetterie pour l'ultime concert d'Elton John en France. Vous aimez Elton John?
Ah oui, qui n'aime pas Elton John?
Tout le monde aime Elton John.
Bah oui, c'est le plus grand mélodiste de la pop anglaise.
Sur RTL, aujourd'hui, en exclusivité avant tout le monde, vous pouvez remporter des places pour cet ultime concert d'Elton John. Il suffit pour ça, ce sera à la Défense Arena à Paris.
C'est quand?
Eh bien, ce sera en juin 2022. Dans un an.
Bah on ira. Et ça, c'est Your Song.
Si vous voulez les remporter, ces deux places, c'est extrêmement simple. Il suffit d'envoyer Elton, le prénom d'Elton John, au 74 900, 75 centimes par SMS. 4 SMS maximum pour la participation.
Il faudrait demander à Eric Jean-Jean, mais c'est une des premières chansons Your Song. Et je me demande si c'est pas dans le vinyle où il posait avec un haut de forme. Vous avez les vinyles de Elton John? Elton John?
Mes grands-parents les ont certainement. Oui,
oui, bah je vous en laissez vos grands-parents où ils sont. Ma grand-mère disait Elton John. Elle n'avait pas compris tout à fait. Qui était-il? Elton John.
Standing.
Tu écoutes Elton John? Elton John, magnifique. Song for Guy, enfin bref. Nous marquons une pause, peut-être, ami.
Avec plaisir.
13h27, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Comme vous êtes des milliers à nous écouter, et pourquoi pas davantage, j'ai la réponse. Le haut de forme, c'est l'album Single Man en 1976. Et c'est Lionel Nataf qui nous précise cela sur les réseaux.
Et je vais ajouter une précision aussi. Le gagnant pour ces deux places, on le connaîtra à la fin de l'émission, à la fin des auditeurs, avant 14h30.
Bien sûr.
Voilà.
Nous vous attendons votre sujet, cher Pascal. Faut-il faire payer les tests de dépistage contre la Covid-19 pour convenance personnelle?
Ça va être dur de parler de ça après le foot. Hein.
Voilà, on parle des personnes non vaccinées. Attention, par exemple, pour voyager, obtenir un pass sanitaire, participer à des événements collectifs, passer un week-end avec des amis. Le 23 juin, l'Académie nationale de médecine avait fait cette recommandation. Écoutez le professeur Yves Buisson, président du groupe Covid-19 à l'Académie.
Il faut tenter cela. Parce que de toute façon, cette frange de la population qui hésite encore à se faire vacciner utilise de façon excessive la possibilité de se faire tester. Ça coûte très cher à la collectivité. Et le vaccin étant lui-même gratuit, il vaut mieux qu'il se fasse vacciner.
Cette question d'arrêter le remboursement des tests de dépistage se posera autour de la rentrée. Déclaration hier du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il faut faire payer pour Bruno sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes non vacciné. Vous faites un test pour aller à un concert ou être avec des amis. Ce n'est pas à la société de payer. On ne s'en sortira jamais. Il n'y a rien de gratuit de toute façon, rajoute Jean-Luc. Et Patrick y voit une façon de rendre le vaccin obligatoire. Belle hypocrisie.
Alors, nous sommes avec Mathieu. Mathieu qui est chauffeur-livreur à Toulouse.
Bonjour Pascal.
Bonjour Mathieu. Alors, analyse.
C'est difficile de débattre avec une journée de soirée pareille.
C'est difficile, vous trouvez?
Ah ouais, on est un peu amer quand même.
Bah oui, je suis d'accord avec vous. Moi, oui, je suis triste. Je suis triste parce que je trouve que c'est un bon moment de partager des matchs ensemble avec ses enfants, en famille, avec des amis. Et il y avait beaucoup de jeunes qui disaient ça hier, qui étaient tristes parce qu'ils ne se retrouveraient plus ensemble pour vivre ce moment-là.
Ça a fait un stoppé, parce que plus il y avait le Covid, du coup, ça permettait de rassembler tout le monde.
Je suis d'accord avec vous. Et comme la prochaine Coupe du Monde, elle est en plein hiver, en 2022, donc partager comme ça à la belle période de l'année, être dehors, dans les bars. C'est une atmosphère aussi, le foot. C'est pas que du ballon.
Pascal, au lieu de faire les barbecues, on fera les parties fêtes à la Coupe du Monde.
Oui, on fera en 2022. Mais bon, votre analyse à vous.
Alors, La première, d'abord, on est arrivé, parce que tout le monde dit la France, c'était quoi le sondage juste avant? C'était 85% disaient qu'on était vu trop grand ou je sais pas quoi. Faut savoir que la France, nous, encore à l'heure actuelle, on est champion du monde. En titre, on était finaliste de la Coupe d'Europe, donc forcément, on était attendu par tout le monde, et même par les Français eux-mêmes. Donc forcément, on arrive, on savait qu'on allait se faire dézinguer de tous les côtés. Et fallait répondre par le jeu. Par le jeu, c'était un peu compliqué. Alors, il y a plusieurs choses à ça. Deschamps a fait une boulette, comme n'importe qui peut le faire. Moi, vous, n'importe qui peut faire des boulettes dans le boulot. Là, cet euro, il a fait une grosse boulette. Déjà, la première, je pense, c'est de ne pas avoir fait tourner pendant la Hongrie. Parce que c'était le match, entre guillemets, où il fallait souffler un petit peu, parce qu'on savait que le Portugal, on allait avoir un match vraiment physique. Et il a mis exactement les mêmes compos pour les trois premiers matchs. On savait que là, dans certaines foules, on allait être rincé, et ça s'est vu. Ça s'est vu, et puis, honnêtement, ce groupe, il était vraiment violent. On a eu l'Allemagne, le Portugal, et nous, on savait qu'il fallait s'affronter nous-mêmes, c'était dur. Et il y en a un quatrième qui s'est invité, qu'on ne s'attendait pas du tout, c'était l'Hongrie. Et là, comme je disais à la personne tout à l'heure à la tête, là où il va falloir vérifier, c'est ce soir, face à l'Angleterre, l'Allemagne, voir ce qu'ils vont faire. Parce qu'on va voir vraiment si le groupe est vraiment violent, si la France a entre guillemets une excuse. Parce que si on voit l'Allemagne qui plonge ce soir, ça va être vite à vérifier.
Non, mais tout ce que vous dites, moi, je peux le partager, même si c'est toujours pareil. Vous dites qu'il faut faire tourner contre la Hongrie. Donc, tu viens de gagner contre l'Allemagne, tu as fait un match super, tu as été collectivement parfait, tu as un état d'esprit, tu as de la puissance. Vraiment, c'est un très bon match contre l'Allemagne.
Il était parfait.
Bon, c'est le meilleur match du tournoi, c'est le premier match. Rarement, on a vu un si bon premier match. Alors après, vous dites, oui, on va faire tourner. Bah, c'est prendre un risque, parce que si ça marche mal, on va te dire, mais c'est que le deuxième match. Généralement, on fait tourner au troisième.
Le Portugal, on savait qu'ils allaient nous attendre. En plus, on est les deuxièmes finalistes contre nous.
On savait qu'on
allait souffrir. Donc, ouais, à un moment donné, il fallait faire tourner, c'était pas contre le Portugal, c'était contre la Hongrie.
Oui, pourquoi pas, mais après coup, c'est plus facile. Bon, vous pensez que Deschamps reste l'homme de la situation?
Pour moi, oui, parce qu'après, quand j'écoutais encore Patrick, il a très bien parlé, mais juste avant, j'entendais que Deschamps, il fallait sa tête. Non, pas du tout. Je pense qu'on oublie vite que Deschamps, il a remonté l'équipe de France après Naïtna, qu'il a mis un groupe mais super solidaire, qu'il a réconcilié tout le monde, le public, les joueurs. Il a fait un super groupe. On a soulevé la Coupe du Monde, quand même. On a été en finale de la Coupe d'Europe l'année dernière. Donc, c'est un super gars, Deschamps. Mais il a fait des boulettes. Là, par exemple, si on reparle du match d'hier, je suis supporter de Barcelone. Quand vous parlez de l'anglais, vous faites oula, oula. L'anglais, c'est un enfer. Il nous a ruiné la saison à Barcelone. Quand vous le voyez titulaire en France, il va faire une boulette. Et le premier but, il vient de l'anglais. Je dis, c'est pas possible. Bon, ça, après, c'est un point de jeu. Mbappé, je suis désolé, mais Mbappé, il a raté. Bon, déjà, les qualifications du talent, on l'a pas vu. Les trois premiers matchs, il est pas. Il est pas du tout. Il fait n'importe quoi. Il est perso. Donc, avant du
tableau. Il marque un super but qui est refusé d'ailleurs contre l'Allemagne.
Ouais, mais à un moment donné, quand vous ne faites pas de résultat, à un moment donné, vous lui mettez remplaçant, et à la limite, vous êtes rentré à la 70e, et vous mettez quelqu'un d'autre qui est plus frais.
Mais on disait qu'on avait la meilleure attaque du monde, fallait lui donner un peu de temps de jeu à cette attaque du monde. J'essaye de me faire l'avocat du diable.
Ouais, mais il a eu trois matchs, je pense que ça suffit quand même. Ouais. À un moment donné, il faut le faire tourner. Et hier, il aimait pareil, il était inexistant hier.
Hier, il n'a pas été bon.
Qui tire tout seul.
Ça, hier, il n'a pas été. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, il n'a pas été.
Après, Deschamps, il faut le garder. Je suis désolé, mais Deschamps, il faut le garder. Ça arrive à tout le monde de se planter. Bon, c'est un planté contre la Suisse. Et ben voilà, c'est comme ça.
Bon, bah écoutez, merci Mathieu.
Avec plaisir. Bonne continuation à tout le monde.
Vraiment, vous bossez cet après-midi?
Ouais, j'y suis là. Je suis sur le côté.
Ah bah oui, mais c'est dur quand il fait chaud en plus, comme ça vous êtes chauffeur-livreur, donc...
Ouais, mais aussi fait. Le métier est dur, mais non.
Non, mais il faut être...
C'est très bien, le Covid.
Il faut être physiquement au point.
Ouais, aussi fait. Ça fait 20 ans, aussi fait.
Eh bah merci Mathieu. Merci beaucoup. Bien. Ciao. Au revoir. Merci.
Vous avez dit ciao?
Oui, j'ai dit ciao, c'est pas terrible.
Non,
au revoir.
C'est super.
Au revoir, pardon. Au revoir.
Bise.
Mais non, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Ça m'est échappé. Voilà, pardonnez-moi. Mathieu, au revoir. Au revoir. Et on va marquer une pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
On peut parler cyclisme aussi. Et cette question, le Tour de France est-il dangereux? Parce que hier, le final de la troisième étape à l'approche de Pontivy dans le Morbihan a été marqué par une série de chutes. Et Marc Madiot, le manager général de Groupama FDJ, a poussé un coup de gueule chez nos confrères de France 2.
Moi, ce soir, j'ai pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel. Ma femme n'a pas envie que mon gamin fasse du vélo. Et beaucoup de familles n'ont pas envie que le gamin fasse du vélo pour voir ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est plus du vélo, là. Là, le virage à 150 mètres de l'arrivée, McEwen, il est dans quel état? Et les autres avant? Donc il faut qu'on change. Parce que si on ne le fait pas, un jour, on va avoir des morts. Moi, j'ai pas envie d'aller téléphoner à la famille d'un de mes coureurs qui serait à l'hôpital pour toujours. Il y a le parcours, il y a plein de choses. C'est un tout, c'est pas la faute de l'organisateur tout seul, c'est la faute de nos instances internationales qui ne régissent pas assez et pas comme il faudrait.
La réponse de Christian Prudhomme, le directeur du Tour, micro RTL de Patrice Gabart.
C'est une discipline de funambule, il faut être super adroit, ils le sont. Parfois ça ne passe pas parce qu'ils sont aussi kamikazes. C'est pas forcément lié au parcours, on explique même justement que les lignes droites trop longues, comme tout le peloton reste en même temps, c'est justement ça qui risque de les faire tomber, alors que si on a des routes plus sinueuses, avec le peloton est donc égrené, eh bien il y a moins de risque de chute.
Alors, le parcours est-il trop dangereux? Les coureurs prennent-ils trop de risques? 32-10.
Alors là, il faut vraiment que Christian Olivier nous éclaire là-dessus, puisqu'il connaît, lui, comme personne, le parcours du Tour de France. Il en a vu 35. Donc, Christian, il va pouvoir nous donner déjà son sentiment d'expert. Et puis ensuite, vous pourrez, pourquoi pas d'ailleurs, lui poser des questions. Nous sommes avec Gilles. Gilles, bonjour, qui habite la Seine-et-Marne. Ah, je crois que c'est la première fois que vous allez intervenir sur du foot.
C'est vrai, je ne suis ni sélectionneur ni arbitre. J'ai donc juste regardé le match et j'ai vu trois équipes de France. J'ai vu les 45 premières minutes, en gros des branleurs. Aucune synchro, on aurait cru des mecs qui jouent jamais ensemble. Ensuite, il y a eu 30 minutes où il y a eu un miracle. Loris a arrêté le pénalty, ça a lancé le jeu. Et puis ensuite, les 15 dernières minutes où en gros, ils ont sommeillé et puis ils se sont fait cartonner. Les Suisses avaient plus faim que les Français, ils ont gagné. Donc en gros, les Suisses ont joué de la première minute à la dernière minute. Les Français ont joué 30 minutes. Leur talent leur a permis de monter à 3-1 et puis ils ont réussi à perdre leur avantage.
Bon, vous êtes déçu ?
Non, je suis pas déçu, mais je dirais que tirer sur Deschamps, c'est un peu facile. C'est pas lui qui est sur le terrain. Si les joueurs ont pas faim, il peut pas faire grand chose. Et puis alors, en dernier sort, je dirais Mbappé, clairement, c'était pas un jour avec. Il avait des godasses en plomb. Lui faire tirer le dernier penalty, pour moi, c'était une erreur statistique. C'est-à-dire, en gros, il avait fait que de la merde. Il y avait aucune raison qu'il soit brillant après avoir fait que de la merde.
vous êtes terrible. Mais c'est normal, franchement, j'ai fait la même chose que vous parfois. J'étais dans des émissions. Je suis comme vous, voilà, de temps en temps.
Je ne dénie pas le talent de Mbappé.
Tous ces arguments, ils sont réversibles. C'est-à-dire que quand j'ai vu, par exemple, le jour Benzema tirer le premier penalty, je me suis dit. C'est peut-être une erreur s'il le manque. Et je crois que Philippe Sanfourche disait ça également au moment du commentaire. À l'arrivée, il l'a marqué, c'est peut-être ce qui lui a donné confiance et il a mis 3 buts derrière. Là, pareil pour Mbappé, s'il le marque hier soir.
Attendez, Pascal, c'est pas tout à fait. Si vous voulez, il y a des jours, les statistiques, c'est les statistiques. Il y a des jours où vous avez la moelle, il y a des jours où vous n'avez pas la moelle. Hier, Mbappé n'avait pas la moelle, ça ôte rien à son talent en général, mais c'était un jour sans. Et quand c'est un jour sans, on ne lui confie pas un pénalty quand il est le cinquième de la série et qu'on joue la qualification. C'est une erreur. Et moi, je pense que Deschamps, il fait bien son boulot, mais l'équipe de France, en gros, il lui manque de l'agnac. Les Suisses, ils sont allés avec le bec et les ongles de la première à la dernière minute. Ils n'ont rien lâché. Et du coup, c'est eux qui sont en quart de finale et pas nous.
Écoutez, cette analyse se tient, en tout cas. Elle est argumentée, Gilles. Elle est argumentée. Vous avez regardé avec des amis hier soir, peut-être ?
Non, j'ai regardé tout seul. Je me suis agacé la première mi-temps. Franchement, j'avais envie de distribuer des coups de pompe dans les fesses. En me disant, mais attendez. Non, mais on aurait cru qu'ils jouaient les uns contre les autres. Les Suisses jouaient. Les Suisses étaient une équipe. La première mi-temps, nous, on était une somme d'individualité. Et quand on est une somme d'individualité sur un sport co, ben on se fait sortir et c'est ce qui s'est passé. On était sans doute meilleurs si on prend à l'unité, mais les Suisses étaient beaucoup plus soudés, avaient un jeu structuré. En gros, il n'y avait pas 11 vedettes qui voulaient briller.
C'est une analyse aussi que j'ai entendue depuis ce matin et qui est partagée par des auditeurs, des fans de foot. Merci beaucoup Gilles. Merci.
Bonne journée.
Emmanuel est là. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Pascal.
Vous nous écoutez depuis tout à l'heure. Écoutez, ça va bien, oui, parce que c'est que du football. Mais je vous dis, ce qui m'a frappé moi hier soir, c'est que Bon, c'est vrai qu'on a été champion du monde, champion d'Europe, donc on a eu souvent beaucoup d'émotions. Moi, là, ce qui m'a ennuyé, pour tout dire, c'est la réaction de mes enfants, et qui étaient tristes de ne plus partager ce moment. Elles ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, et pour elles, elles sont dans des bars, généralement c'est là qu'on voit des matchs de foot, on est avec des amis, et elles étaient très tristes, plus encore que de profiter d'un match de football, de partager cette communion. C'est ça qui m'a fait de la peine.
Et le football, c'est ça, le football.
Bah en fait, oui,
le football,
je suis complètement d'accord.
C'est tout un partage de tristesse, c'est un bandage de bonheur.
Je suis d'accord.
Les tristesses, on en a connu avec un France-Allemagne en 80, et on en connaît, et on a connu deux Coupes du Monde. Donc, c'est, voilà, et du bonheur, on en aura d'autres. Voilà. Mais le but de mon appel, moi, c'était pas ça, en fait, parce que j'ai écouté votre premier éditeur qui tire un petit peu sur l'idée des champs. Et je pense qu'il va pas être le seul. Alors moi, personnellement, je trouve ça scandaleux de montrer du doigt Didier Deschamps. Pour moi, Didier Deschamps, c'est certainement le meilleur sélectionneur qu'on ait pu avoir en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Quand on aura son palmarès, on pourra causer, parce que c'est un palmarès énorme, c'est un grand monsieur. Hier, c'est vrai qu'il y a eu des divergences dans le jeu, il y a eu des mauvais choix peut-être, mais en tous les cas, pour ma part, Didier Deschamps doit rester sélectionneur de l'équipe de France. Je pense qu'il n'y a pas d'autres hommes qui peuvent avoir les épaules de ce monsieur. Et voilà. Moi, c'est mon avis. Après, moi, je m'occupe aussi de gamins au niveau du foot aussi, quand j'ai le temps, quand je peux. Surtout beaucoup les plateaux le samedi. Donc, je vois ça d'un œil aussi de footeux. Et moi, oui, Deschamps doit rester sélectionneur. Voilà. Par contre, moi, il y a un joueur qui arrive déjà depuis longtemps que j'aurais mis sur le banc de touche et j'aurais même pas appelé parce qu'il est là une fois tous les 36. C'est Pavard. Je peux pas. Et c'est les deux buts qu'on prend hier, le penalty sauvé par Lloris et le premier but, on peut dire merci à Benjamin Pavard. Ça, c'est mon idée. Et c'est surtout sur le fait de défendre. Vraiment, je suis un grand faveur de Didier Deschamps. Il doit rester à son poste.
Bon, il est entraîneur de l'équipe de France depuis 2012.
Oui,
donc c'est non mais c'est tout à fait exceptionnel.
Michel Hidalgo, il a resté combien d'années ?
Hidalgo avait été de 76 à 84. Donc, voilà. Il est resté Didier Deschamps plus longtemps. C'est le sélectionneur qui aura été le plus longtemps. Oui. Et c'est celui, honnêtement, qui est le moins discuté parce que la personnalité de Didier Deschamps fait qu'elle... Et puis les résultats. Il a joué 76 matchs. Il a fait 23 matchs nuls. Et il a perdu simplement 18 fois. Je rappelle qu'hier soir, il n'a pas perdu. Hein. C'est un match nul pour les stats.
C'est ça, tout à fait, bon. Il a perdu au pénalty.
Greg Caranoni, Christian Olivier m'appelle, me dit Greg Caranoni. Que se passe-t-il donc
Bonjour Pascal Pro.
Que se passe-t-il
parce une image, que a... une oui. image insolite, Pascal, pardonnez-moi, une image insolite en direct de la route du Tour de France avec des coureurs qui, après un kilomètre départ réel, se sont mis à l'arrêt, pieds à terre, ont arrêté en guise de protestation. Suite au brouhaha, et plus qu'au brouhaha, au capharnaüm et au grand fatras de l'arrivée d'hier et des nombreuses chutes sujettes à polémique. Alors vous savez que les responsabilités sont diluées. La faute à qui ? La faute aux organisateurs avec un fin de tracé hier très sinueux et très dangereux. La faute au matériel désormais devenu beaucoup trop fragile. La faute à la grande pression mise par les directeurs sportifs et managers qui continuent dans les derniers kilomètres de donner des consignes absolues dans les oreillettes à destination des coureurs. Tout cela évidemment est dilué, ses responsabilités sont diluées, mais depuis hier soir on ne cesse de parler de cette affaire de finale d'étape beaucoup trop dangereux et qui enverrait les coureurs à l'hôpital. Marc Madiot, manager de la formation Groupama FDJ, témoignait au micro d'Yves Calvi ce matin en disant « Moi, c'est un sport qui est devenu trop dangereux, je ne veux pas que mon fils fasse le sport cycliste alors que moi j'ai été un champion, mais ce sport-là eh bien court à sa perte si on ne trouve pas des solutions, si on ne discute pas et si on ne se met pas autour d'une table. » En guise de protestation, donc, image insolite, après un kilomètre départ donné de Redon direction Fougères, eh bien pendant 60 secondes, les coureurs symboliquement ont mis pied à terre pour protester et pour attirer l'attention au dossier évoqué. Et ils viennent à l'instant de reprendre leur monture pour rallier Fougères et pour respecter également le très nombreux public venu au bord des routes, venu les encourager. Voilà, c'est une image insolite que je tenais à souligner dans votre émission, Pascal Praud. La course va reprendre ses droits, mais il va falloir vraiment, vraiment, vraiment trouver des solutions.
Christian, il faut que vous restiez avec nous, parce que je pense que c'est très important ce qui s'est passé ces derniers jours au commencement de ce Tour de France avec deux incidents majeurs. Donc on va laisser passer une pause. Vous avez eu raison d'intervenir et je pense que vous allez pouvoir échanger avec les auditeurs, pourquoi pas, parce que vous connaissez les parcours du Tour de France. J'entendais Marc Madiot qui dit à 150 mètres de l'arrivée, par exemple, il y a un tournant. Bon, est-ce que ça a toujours existé ou pas, Christian? Vous nous direz
bien sûr.
La pause. Et ce que vous avez dit vraiment est passionnant sur ce monde d'aujourd'hui aussi qui peut-être met en danger les cyclistes, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors restez avec nous, on parle foot, on parle cyclisme, mais on s'adapte, c'est un peu le jeu de l'actualité. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
On était avec Emmanuel qui parlait foot et Emmanuel est toujours là. Emmanuel, on va mettre le foot juste entre parenthèses quelques secondes. D'ailleurs, vous êtes aussi un sportif et vous allez pouvoir évoquer la dangerosité peut-être des parcours du Tour de France. Simplement, Christian Olivier, qui est notre spécialiste. Christian, lorsque les cyclistes ont mis pied à terre, on avait imaginé à un moment qu'ils puissent faire grève ?
C'est un bien grand mot, en vérité. Vous savez, il y a toujours un peu une réaction éruptive comme cela des coureurs ou de certains leaders. Mais le mot grève, effectivement, a bruissé dans la caravane du Tour de France. Non, il s'agissait pas de grève. C'est-à-dire que les coureurs n'auraient pas décidé aujourd'hui de ne pas prendre le départ de la quatrième étape pour aller jusqu'à Fougères. C'est absolument impossible parce que ce sont des champions. Ce sont des champions et ils sont responsables. Deux, ils ont des devoirs vis-à-vis de leurs sponsors. Et puis trois, c'est un sport où il y a vraiment, je vous l'assure, un très grand respect vis-à-vis du public qui fait très souvent plusieurs dizaines, centaines de kilomètres pour venir voir les coureurs et pour les encourager. Donc le mot grève est un peu galvaudé, je ne sais pas d'où il vient. Et d'ailleurs, il n'a pas été prononcé par un seul coureur, pas plus que par un manager ou un directeur sportif. Disons, mouvement de protestation, mouvement d'humeur, ce qui a été le cas, effectivement.
Et dans la dangerosité du parcours, quand Marc Madiot dit ou remet en cause un virage à 150 mètres de l'arrivée. D'abord, il ne l'a pas découvert hier. J'imagine que le parcours, il est connu depuis je ne sais combien de temps. Ça arrive jamais, un virage à 150 mètres de l'arrivée ?
Mais ça arrive tous les jours. Ça arrive presque tous les
jours. Alors pourquoi il dit ça, Marc Madiot ?
Mais parce que d'abord, Marc, hier, a eu effectivement une réaction très volcanique et qu'il a confirmé d'une certaine façon, de façon un peu plus apaisée d'ailleurs, vous l'aurez noté au micro de Yves Calvi, en souhaitant vraiment trouver des solutions et d'ailleurs en ne mettant pas l'accent sur la responsabilité de ASO, vous savez, à Morisport, organisation qui organise le Tour de France. Ça fait partie sans doute dans un nouveau cahier des charges de quelque chose qu'il faudrait améliorer, mais Marc le sait bien, il a participé à un nombre incroyable de Tours de France, il a un palmarès absolument incroyable, c'est un vieux de la vieille, il est expérimenté et des arrivées mouvementées sur un parcours un peu sinueux et sur des routes étroites, ça arrive très fréquemment, pas tous les jours mais très fréquemment. Et là où je me mets un peu en opposition avec Marc Madiot, c'est qu'il oublie de dire que parmi toutes les causes, il y a peut-être aussi, il l'a dit, mais peut-être pas suffisamment, il l'a dit, c'est les oreillettes. C'est-à-dire que dans le brouhaha des spectateurs qui encouragent les coureurs, les hélicoptères, il l'a dit, qui sont au-dessus des coureurs pour filmer ces finales très acrobatiques, il y a toujours les consignes qui sont données par les directeurs sportifs dans leur voiture à l'arrière du peloton. Ouais. Et là, parfois, les coureurs ne savent plus à quel saint se vouer et ils arrachent d'ailleurs cette oreillette car ils ne le veulent plus de ces consignes. Mais ces consignes, avec la pression de victoire pour aller gagner l'étape, eh bien, elles existent aussi et il faut donc aussi pointer d'une certaine façon la responsabilité sur aussi, mais pas seulement, mais aussi un peu sur les sponsors, les directeurs sportifs.
Emmanuel, qui était avec nous, qui parlait football, et on pourra revenir sur le foot, mais Emmanuel qui suit le Tour de France, j'imagine depuis un certain temps, vous avez 55 ans, Emmanuel.
Oui, j'ai connu, moi, c'est mon grand-père qui m'a donné goût à ça quand j'étais gamin avec Bernard Hinault.
Donc votre sentiment sur ce que vous entendez et peut-être ce qui est devenu à la fois le Tour, mais en général le sport de haut niveau.
Dans le Tour de France, il y a du pour et du contre dans ce que j'entends, parce que de toute façon, ça sera toujours un sport dangereux quand on les voit descendre des cols à 120, 130 km/h.
sur des vélos qui font 2 grammes, bon, c'est déjà un risque déjà qu'eux-mêmes prennent. Ça, on ne pourra jamais le changer. Par contre, moi, ce qui me bloque un peu, c'est le comportement des gens sur le bord de la route. Enfin, que les gens soient plus responsables par rapport à eux. Parce que la première chute du Tour de France...
C'est une personne, c'est ça qui est terrible. Je ne sais combien il y a de spectateurs sur...
Mais c'est une personne,
c'est voilà. Ça qui est terrible. Et comme il n'y a pas de barrière partout, tu ne peux pas contrôler tous les gens. Et c'est vraiment la goutte de poison qui contamine 1,5 litre d'eau, vous voyez.
Je suis d'accord avec vous, Pascal, c'est une personne pour ce coup-là, mais tous les ans, il y a des gens qui s'avancent pour voir... leur champion.
Bien sûr. Mais ça pour le coup, ça a toujours existé.
Déjà pour la sécurité des coureurs, déjà que les gens, déjà eux-mêmes, se prennent en responsabilité. De toute façon, les gens, ils les voient passer une seconde. Ça passe tellement vite. Donc voilà.
La sécurité, alors ça, c'est un problème pour les. Christian Olivier,
pendant les sprints aussi, les barrières aussi sont très dangereuses, moi, je trouve. Aussi, avec les pieds qui dépassent un peu, là. Il les rate quand même les barrières.
Les gens sont, les spectateurs sont disciplinés.
Écoutez, que les choses soient claires, je ne suis pas l'avocat des organisateurs du Tour de France. Premier point. Deuxième point, du premier au dernier kilomètre, on ne peut pas rendre effectivement la course le risque qu'il se passe malheureusement quelque chose. Moi, j'ai une formule. Le Tour de France est un miracle permanent. C'est-à-dire que entre les coureurs qui se disputent la victoire, les coureurs qui descendent à fond la caisse, l'école de la haute montagne, les spectateurs, c'est Claude, je ne sais plus, votre auditeur, effectivement, qui le souligne, l'indiscipline des spectateurs. Oui, tout cela existe. C'est le seul sport à ciel ouvert. C'est un stade à ciel ouvert, un spectacle gratuit. Tout le monde vient là faire la fête. Certains abusent de la fête. Vous savez, au fur et à mesure qu'on progresse, au départ, les spectateurs sont très disciplinés. Puis à la fin, ils sont impatients de voir passer les coureurs. Et puis, il n'y a plus rien dans la glacière, si vous voyez ce que je veux dire. Sous la chaleur, les comportements sont peut-être plus les mêmes. Voilà, c'est un miracle permanent. Et ça peut mettre en danger, effectivement, la sécurité des coureurs. Mais le miracle permanent, nonobstant ce qui se passe avec ou ce qui s'est passé hier soir. Souvenez-vous d'Armentières, de notre consultant Jalabert, c'était en 1994. Là, c'était une barrière qui était mal ajustée. Le pauvre Jalabert a été totalement, à l'époque, défiguré. Ça a été... Souvenez-vous d'un autre accident, le pauvre Fabio Casartelli, dans la descente du col de Portet d'Aspet. De mémoire, c'était en 95. Et je crois me souvenir que c'était un 18 juillet. À l'époque, il n'y avait pas de casque. Sécurité, il a fallu mettre un casque. Mais certains disent, mais même s'il y avait eu un casque, le pauvre Fabio n'aurait pas retrouvé la vie. Vous voyez, je veux dire, c'est un sport dangereux, il faut l'assumer, mais il faut trouver des solutions pour essayer, évidemment, qu'il soit le moins dangereux possible.
Merci beaucoup, Christian. Le flash d'Hortense Crépin dans quelques secondes. Merci, Christian et Olivier, sur la route du Tour de France.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h01. Le flash avec Hortense Crépin.
La déception est immense, rien n'est jamais facile. On continue à se battre pour préparer l'avenir. Déclaration sur Instagram de Karim Benzema au lendemain de l'élimination des Bleus en 8e de finale de l'Euro. L'équipe est en ce moment dans l'avion qui va la ramener en France en milieu d'après-midi. Et une discussion à venir entre Didier Deschamps et Noël Le Graët sans que cela compromette l'avenir du sélectionneur des Bleus. Le président de la Fédération Française de Football qui se dit lui aussi très déçu de la défaite. Et puis les deux autres 8e de l'Euro ce soir, Angleterre Allemagne à 18h avant Suède-Ukraine à 21h. Rendez-vous dans RTL Foot à 20h. Direction le Tour de France.
RTL
Tour de France 2021.
Quatrième étape aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, 152 km entre Redon et Fougères. Le peloton avec Mathieu Van Der Poel en jaune a pris le départ de la course il y a 20 minutes maintenant, dans un contexte tendu au lendemain d'une étape marquée par les chutes, Christian Olivier.
Oui, comme évoqué avec Pascal Praud, une minute d'arrêt après un kilomètre de course pour protester donc contre ces arrivées tendues et sujettes à polémique. Les coureurs qui maintenant reprennent la course tout à fait normalement, un non partant Caleb Ewan, fracture de la clavicule hier, spectaculaire, chute dans les derniers kilomètres, et Roglic, deuxième du Tour de France l'année dernière, avec un gros, énorme bandage à la jambe gauche, mais lui, il est opérationnel. Sur la moto RTL, la course est lancée, Patrice Gabart.
Oui, après 8 km de course seulement, hein, 177 coureurs du peloton sont toujours groupés. Alors effectivement, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, ça roulait à très très petite allure pour manifester ce mouvement d'humeur, pour dénoncer les chutes en Syrie et puis aussi alerter les instances internationales. Alors sur la route, on a vu aussi beaucoup de monde. Alors ça ne change pas, hein, le paysage, toujours beaucoup de gens. Alors beaucoup de jeunes, hein, alors c'est pas que l'école est fermée le mardi en Bretagne, hein. Il y a beaucoup de scolaires et puis ces jeunes aussi qui font un peu d'école buissonnière avec leurs parents. Alors le ciel, on a beaucoup parlé du ciel breton depuis 3 jours. Alors il y a toujours beaucoup de nuages, ça menace un peu, mais pour l'instant les coins de ciel bleu sont de plus en plus nombreux. Et puis un petit mot quand même sur la route, pour l'instant la route elle est dégagée, assez large, assez belle, mais il y a toujours beaucoup d'obstacles sur la route, hein, ces ralentisseurs, et ça aussi ça a été soulevé ce matin par les directeurs sportifs. Donc je rappelle, après bientôt 10 km de course, le peloton de 177 coureurs toujours groupé.
Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 14h30.
Merci Christian Olivier et Patrice Gabart sur le Tour de France pour RTL, et à 18h30 ce sera le Club Jalabert présenté par Christophe Pacaud. L'actualité c'est aussi la candidature à la présidentielle d'Éric Piolle, le maire de Grenoble. Il devra passer par la primaire écologiste en septembre. Bruno Le Maire, lui, favorable à un recul de l'âge de départ à la retraite. Le ministre de l'économie estime qu'il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, alors que la piste d'un départ à 64 ans semble sur la table. Le temps instable sur les deux tiers nord du pays, des averses et parfois des orages. Sur le tiers sud, le soleil va revenir, mais avec du vent sur les côtes. Les températures cet après-midi de 18 à 21 degrés. Les courses à Auteuil, l'arrivée provisoire As, 5, 14, 9 et 6. 14h et 4 minutes sur RTL et la suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Hortense, et on va pourquoi pas rester quelques secondes encore avec Christian Olivier, parce que les auditeurs vont pouvoir échanger avec lui. Et nous sommes par exemple avec Franck, qui habite la Mayenne, donc pas très loin du Tour de France. Franck, vous connaissez Christian Olivier, vous avez peut-être une question à lui poser sur le Tour et sur le fonctionnement du Tour.
Ouais, le fonctionnement du Tour, j'ai entendu tout à l'heure Christophe Olivier qui en parlait tout à l'heure de l'UCI. L'UCI, c'est bien eux qui s'occupent exactement par rapport au Tour de France, par rapport à tout ce qui est prologue et tout ça. À une époque, on enlevait les fameux dodanes qui existent. À cette époque-là, on les enlevait. Pourquoi cette année, on les a pas enlevés? Et je comprends pas comment ça se fait, comme hier, à l'arrivée, d'avoir un giratoire ou d'avoir un truc comme ça, comme il s'est passé hier. Ce n'est pas possible, ce truc-là. L'UCI et même le président du Tour de France, il est au courant du circuit. C'est comment ça se passe le circuit, c'est pas possible de faire un truc comme ça. Autant de chutes, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis le Tour de France.
Alors Christian vous répond.
On peut pas enlever les dodanes. Comment voulez-vous enlever les dodanes? Alors effectivement, la première chute, celle qui avait entraîné sur le bitume hier Guérin Thomas, notamment l'ancien vainqueur du Tour de France, a été provoquée. C'était à hauteur de la Trinité-sur-Mer. A été provoquée. Oui. Vous avez raison, par un dodane. Mais comment voulez-vous, Marc Madiot, encore une fois l'expliquer bien chez Yves Calvi ce matin sur l'antenne de RTL, à l'heure où on essaye de réduire au maximum le nombre de voitures, le nombre et la vitesse des voitures sur les chaussées tout à fait normales, eh bien ça réduit également le champ d'expression des coureurs cyclistes. Donc comment voulez-vous enlever les dodanes? Comment voulez-vous élargir les routes alors qu'elles sont étroites au détriment des voitures, mais effectivement au détriment aussi des coureurs cyclistes? Ça me paraît compliqué. Voilà. Dans la chronique avec Laurent Jalabert ce matin, j'ai un peu caricaturé en lui disant, mais alors que fait-on? On fait le Tour de France en Vélib? Comme ça, les vélos sont moins fragiles. On fait le Tour de France également avec des contrôles radars pour limiter la vitesse. Et on fait le Tour de France avec des arrivées sur les autoroutes. Vous voyez, c'est insoluble.
Oui, c'est vrai. c'est vrai que la question de la vitesse était remise en place.
Ce que j'aime bien chez Christian, c'est que c'est clair. Ouais. Voilà. Oui.
Voilà, j'adore. Bon. C'est pour ça que je l'écoute tous les jours. Il a raison. Et je suis d'accord avec lui.
Exactement.
Mais sur le principe qu'on voit au nombre de chutes, moi j'écoute le Tour de France comme je regarde le Tour de France.
Ouais, mais ça c'est une bonne question. Vous dites j'ai jamais vu ça. Est-ce que Christian, c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a jamais eu autant de chutes ou est-ce que c'est une mauvaise série?
Non, franchement, il y en a eu quand même des chutes. Alors, je peux pas vous donner les dates exactes et les répertorier, mais cette année, par exemple, il a failli. C'était pas le Tour de France, c'était le Tour de Pologne. Il a failli y avoir un mort quand même, qui est parti dans les balustrades sur un sprint qui ne concernait pas d'ailleurs une route étroite et qui ne concernait pas, comment dire, des spectateurs imprudents. Vous savez, du temps de Jean-Paul Van Poppel, du temps de Mark Cavendish, qui est revenu d'ailleurs sur le Tour de France. Il y a
Sacré
Lascar sur le sprint. Du temps de Laurent Jalabert, mais Laurent était
voilà.
Et Laurent qui était prudent et Armentières, comme je le disais tout à l'heure, lui c'était plus une barrière qui avait été mal. Ouais. Mais c'est ça. Mais ouais. Mais et d'ailleurs, les organisateurs maintenant essayent de proposer aux coureurs des arrivées, mais c'est pas toujours le cas, hors des centres-villes, c'est-à-dire vous voyez, à proximité des zones industrielles où les routes sont un peu plus grandes, où s'élargissent davantage. Mais c'est comme c'est un spectacle et comme il y a aussi un business, hein, il faut le reconnaître également. Eh bien, les spectateurs vous les trouvez davantage au centre-ville avec les commerces, et c'est un qu'à l'extérieur des villes.
Bah merci beaucoup, Christian. On va marquer une nouvelle pause. Je sais pas si on va continuer sur le foot ou sur le cyclisme. C'est un peu les auditeurs, hein, dans ces cas-là, qui vont décider. L'actualité est double. À tout de suite.
À votre disposition.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Elton John.
Je rappelle, dans Pascal, qu'il reste à peine quelques minutes pour pouvoir remporter deux places pour l'ultime concert d'Elton John, qui aura lieu dans un an, maintenant le 11 juin 2022, à la Défense Arena. Pour ça, eh bien, il suffit d'envoyer Elton au 74 975 par SMS.
Le Tour de France est-il dangereux? C'est la question qu'on pose. Hier, le final de la troisième étape à l'approche de Pontivy dans le Morbihan a été marqué par une série de chutes. Et Marc Madiot, vous l'avez peut-être écouté, a réagi fortement en disant « Attention, un jour il y aura des morts ». Et on est Christian Olivier, le spécialiste du cyclisme, entre autres, qui suit le Tour de France depuis longtemps. Et nous sommes avec des auditeurs qui interviennent et lui posent des questions. C'est le cas de Guillaume. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour Pascal.
Vous habitez Cambrai.
Exactement.
Votre sentiment, votre analyse?
Bah écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec cette vague contestataire qu'on a pu voir aujourd'hui, puisque les cyclistes sont des professionnels et on peut estimer que lorsque vous avez dans l'exercice de votre activité professionnelle des conditions de sécurité qui sont restreintes, on peut tout à fait estimer sa logique qu'on puisse exercer un droit de retrait ou contester. Voilà. Aujourd'hui, ce que je comprends pas, ou c'est peut-être le cas, mais je suis peut-être mal informé, c'est que pourquoi les directeurs d'équipe ne sont pas associés au tracé, ou en tout cas à l'organisation du tracé du Tour de France. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, mais si c'est le cas, je trouve ça assez illogique qu'ils puissent cautionner, qu'on puisse emprunter des routes plutôt dangereuses.
Question pour Christian, est-ce que les directeurs sportifs sont consultés sur le Tour de France?
Mais alors, mieux que ça, pour le tracé des étapes du Tour de France, du premier au dernier kilomètre, ce sont des anciens coureurs qui font les tracés. Donc ce sont des coureurs qui ont l'expérience, des coureurs professionnels. Et le directeur de la course, c'est Thierry Gouvenou, un ancien professionnel. C'est-à-dire que vous avez, sur le Tour de France, 6 ou 7 coureurs, à une unité près, je ne sais plus, mais 6 ou 7 coureurs qui appartiennent à l'organisation Amaury Sport Organisation, et ce sont eux qui proposent plus que les arrivées d'étape, mais tous les tracés. Alors ensuite, c'est un dosage avec Christian Prudhomme, le grand patron, sur tant de kilomètres, tant d'arrivées dans l'école, tant de ça, c'est pour le suspense de la course, pour dire, cette année, on va faire un tour pour grimpeurs, peut-être un peu moins pour grimpeurs, davantage pour rouleurs. Mais notamment les arrivées d'étape, elles sont validé, préparé et validé par d'anciens coureurs, à la tête desquels on retrouve un ancien champion, Thierry Gouvenou.
Bah écoutez, là aussi, vous voyez Guillaume, c'est toutes les précautions sont prises pour qu'il n'y ait pas d'incident.
Effectivement.
Merci Guillaume, vous allez suivre le Tour cette année, vous avez peut-être un favori?
Pas de favori, mais je vais suivre le Tour comme d'habitude, c'est une fête populaire, donc on se doit d'être derrière l'organisation pour soutenir cette belle fête.
Merci Guillaume. Jean-Paul est là également, qui est coach sportif, qui habite dans le Pas-de-Calais. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Pascal.
Le Tour de France est-il dangereux d'abord? Est-ce que vous avez une réponse à cette question?
Je pense que ces dernières années, il est un peu plus dangereux qu'auparavant. Mais des chutes, il y en a toujours eu, je crois. Et il y a une question qu'on ne soulève pas, c'est de la question économique. Parce que aujourd'hui, les grosses écuries, il y a des enjeux économiques. Ils sont énormes. Et donc, on se doit de se montrer, on se doit de gagner des courses. Et la première chose qu'il faut supprimer, à mon humble avis, c'est l'oreillette. Parce que l'oreillette, elle ôte tout. Demande à Bernard Hinault s'il ne veut pas ôter l'oreillette. L'oreillette, il n'y a plus de course à l'instinct. Et on a entendu Alaphilippe en parler. Lui, il court quand même à l'instinct. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il court avec panache, d'ailleurs. Et des fois, il y a des plans qui sont mis en place. Il ne les respecte pas. Il le dit lui-même. Il l'a dit sur France Télévisions l'autre fois. Et je pense que c'est d'abord les directeurs sportifs qui sont en priorité plus ou moins responsables de ce fait. Le parcours, il a toujours été plus ou moins sinueux. Il faut quand même bien l'avouer. La chute hier à l'arrivée, c'est Evans qui fait une erreur. C'est pas à cause du virage. C'est lui qui fait une petite embardée sur Sagan. Donc voilà. Mais ça a toujours été. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus dangereux. Mais c'est dû, à mon humble avis, à toutes ces contraintes économiques qu'il y a. Et voilà, j'ai encore une question d'argent.
Réponse de Christian. Sur les oreillettes, là, c'est la première fois que j'entends ça d'ailleurs, Jean-Paul. Faut-il supprimer, Christian, les oreillettes ?
Alors, monsieur a tout à fait raison dans ce constat. J'en parlais tout à l'heure hein, sur les oreillettes. Ça faisait partie d'une des raisons, effectivement. Vous avez raison, monsieur. Vous avez entièrement raison. Il y a une pression économique, donc sportive et de résultats de la part des directeurs sportifs qui sont dans leur voiture, derrière les coureurs. Et qui donne ou des consignes ou des ordres et qui mélange parfois un peu les deux. Et on le voit d'ailleurs certains coureurs hein, arracher les oreillettes parce qu'ils n'en peuvent plus. Cette proposition de supprimer les oreillettes, on devrait avoir un contact radio rompu dans les 20 derniers kilomètres. Voilà. Qu'on conserve des oreillettes sur des étapes de plaine pour donner des nouvelles, savoir si un coéquipier se porte bien, revenir à l'arrière, préparer la stratégie. Ça me paraît pourquoi pas. Faire preuve de modernité, mais dans les 20 derniers kilomètres, qu'on trouve un système, effectivement, qui puisse couper net toute communication entre les directeurs sportifs et les coureurs, et aux coureurs de jouer sans les directeurs sportifs. Vous avez raison, monsieur.
Eh ben, merci beaucoup, Christian Olivier. Pour l'organisation du Tour de France, c'est toujours intéressant de savoir comment vous travaillez. En ce moment, vous êtes sur la ligne d'arrivée, je pense, Christian.
Exactement, ligne d'arrivée après être passé par le départ très rapidement pour saluer deux trois coureurs, deux trois managers, l'organisation, prendre humer un peu l'atmosphère de l'étape et ensuite direction l'arrivée, mais au cœur de la course évidemment et dès le départ Christophe Paco pour son émission de la mi-journée et Patrice Gabart, Morad Jabari hier, Patrice Gabart aujourd'hui sur la moto pour recueillir un maximum d'informations et vous raconter évidemment l'étape au cœur de la course, au cœur du peloton.
Et chaque jour, vous changez de ville, chaque jour, vous changez d'hôtel. Donc, vous prenez votre petite valise pendant 25 jours.
Et elle est très grande, ma valise.
Ah bah oui, j'imagine.
Elle est très lourde.
faut une grande valise. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de galette saucisse au programme, manifestement.
Pas pour l'instant.
Ah oui, mais on est encore dans la région où vous pouvez...
Oui, mais retenu par mes obligations professionnelles, je n'ai pas pu faire le tour de la zone arrivée pour voir s'il y avait des galettes saucisses.
Vous comprenez bien, Pascal, ce que c'est vous l'obligation professionnelle.
Bien sûr. Mais Christian, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et puis vraiment, merci Christian pour toutes ces informations.
Merci à vous.
La dernière pause et on va peut-être finir sur le football avec l'élimination des Bleus.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Je remercie de tout cœur vraiment tous ceux qui préparent cette émission. Je pense à Olivier, à Pierre-Louis, à Cyranouche qui va à la fin de la saison partir pour d'autres cieux. À Evan également qui a beaucoup participé à cette émission. Et c'est le parcours des jeunes apprentis journalistes qui reçoivent vos communications après de voler de leurs propres ailes et vraiment on ne les oubliera pas parce qu'ils sont essentiels à notre émission. Cyranouche, Evan, je les salue une nouvelle fois. Nous sommes avec Grégory et c'est Olivier justement qui a eu le coup de fil de Grégory il y a quelques minutes. Grégory qui habite Paris et nous allons terminer en parlant football.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors écoutez, bah oui, je suis déçu hein, que la France s'est fait éliminer. Hein, j'aurais voulu autre chose, bien sûr. Maintenant, moi, cette équipe de France, depuis le début de l'Euro, mais bien sûr, j'aurais voulu que la France atteigne son objectif, c'est-à-dire de gagner l'Euro, hein, champion du monde, champion d'Europe, ce qui aurait été magnifique, encore une fois. Mais depuis le début du tournoi, je les sentais pas, les Français. Moi,
Même lors de France-Allemagne.
même lors de France-Allemagne, et justement, c'est ce que j'allais dire, même lors de France-Allemagne, quand la France gagne 1-0, bon, déjà, j'aime pas gagner des matchs comme ça, but contre son camp. Bon, c'était bien, la victoire, hein, tant mieux. Mais, alors, je me rappelle le lendemain, notamment sur RTL, et, enfin bon, bref, les gens dans la rue, mais les collègues, tout ça, disaient, ouais, super, l'équipe de France, on a gagné tout. J'étais bien sûr content, je suis français, je veux que la France gagne. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'enthousiasme. Et puis cette équipe de France face à l'Allemagne, effectivement, certes, il y a eu un bon bloc collectif. Certes, Pogba qui a déjà été extraordinaire, et des bonnes petites fins de Mbappé aussi. Mais je trouve pas qu'ils ont bien géré le. C'était pas ouvert, ça n'allait pas trop de l'avant. C'était plutôt les Allemands qui dominaient d'ailleurs. Faut quand même pas oublier ça. C'était les Allemands qui dominaient. Et tout de suite, on se voyait vainqueur tout de suite. Tout de suite, on se voyait vainqueur de l'Euro. On était déjà champion d'Europe un petit peu dans la tête. C'est jamais bon de faire ça. Jamais bon.
C'était notre question du jour. Est-ce qu'ils se sont vus trop beaux?
Moi, c'est ce que je.
Et vous répondez oui.
Oui. Pour moi, oui. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a gâché. Quand on mène 3-1, c'était un petit peu. Ça m'a fait penser à France-Allemagne 82. Hein. On met 3-1. Bon, enfin, il y a eu plus d'injustice au France-Allemagne 82.
Oui, parce que c'est une épopée France-Allemagne, ce qui n'était pas le cas hier. C'est un match de légende. Hier, c'était sympa, c'était bien, c'était spectaculaire. Mais ça, oui. Me semble-t-il, ça n'a pas le même niveau d'intensité dramatique que France-Allemagne.
Oui, ça a pas le même, c'est pas la même intensité. Et puis, on n'a pas subi les mêmes injustices parce que France-Allemagne 82, il y a eu énormément d'injustices.
Tout à fait.
Alors que hier, bon, normalement, on devait plus passer. Alors, Pogba qui a fait un match extraordinaire, il a été excellent hier, Pogba.
Bah, il fait quand même une faute à la 90e minute, le ballon qu'il perd, c'est impardonnable.
Exactement, c'est impardonnable. Ce qu'il aurait dû faire au lieu de faire ses petites feintes, il aurait dû plutôt de. Bon, c'est vrai qu'il y avait quand même 4 ou 5 joueurs suisses, je crois. Il aurait dû plutôt faire une passe lointaine, tirer lointain, même si c'était un joueur suisse qui récupérait, mais enfin, le temps qu'il remonte tout le terrain, je pense qu'il aurait été bloqué par les Français. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Non, vraiment, moi, je réponds à la question, effectivement. Et il se sentait trop beau, trop champion d'Europe tout de suite.
Eh bien, merci, Grégory. Voilà. C'est l'heure du débrief. Merci, Grégory, avec Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Une claque. Désillusion, énorme déception, immense échec, anéanti. La France s'est effondrée en 8e de finale de l'Euro, battue par la Suisse au tirs au but.
Kylian Mbappé qui va prendre son élan. Il est resté dans la surface de réparation. Il regarde l'arbitre qui lui fait signe d'y aller. Le petit panache justement, ça y est, c'est parti. Il est arrêté. C'est fini. La France.
C'est fini. La réaction de Mathieu au 32-10.
Encore à l'heure actuelle, on est champion du monde. On était finaliste de la Coupe d'Europe. Donc forcément, on arrive, on savait qu'on allait se faire dézinguer de tous les côtés. Deschamps a fait une boulette, c'est de ne pas avoir fait tourner pendant la Hongrie. On savait que là, dans certaines poules, on allait être rincé et ça s'est vu.
Et Gilles nous a appelé aussi pour nous livrer son analyse. Jingle, Greg Caradoni.
On refait le match sur RTL.
J'ai vu les 45 premières minutes, en gros, des branleurs. Aucune synchro, on aurait cru des mecs qui jouent jamais ensemble. Ensuite, il y a eu 30 minutes où il y a eu un miracle, Loris a arrêté le pénalty, ça a lancé le jeu. Et puis ensuite, les 15 dernières minutes où en gros, ils ont sommeillé, puis ils se sont fait cartonner. Les Suisses avaient plus faim que les Français. Donc...
Alors, à qui la faute? Didier Deschamps est-il le principal responsable? L'avis encore de Gilles.
Tirer sur Deschamps, c'est un peu facile, c'est pas lui qui est sur le terrain. Si les joueurs ont pas faim, tu peux pas faire grand-chose. Et puis alors, en dernier sort, je dirais Mbappé, clairement, c'était pas un jour avec, il avait des godasses en plomb. Lui faire tirer le dernier pénalty, pour moi, c'était une erreur statistique. C'est-à-dire, en gros, il avait fait que de la merde, il n'y avait aucune raison qu'il soit brillant après avoir fait que de la merde.
Et pourtant, hier, on se disait tous avant le match contre la Suisse.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche.
Ouais, oui, tout le monde pensait à la victoire, l'arrivée en quart de finale, enfin, presque tout le monde. Vous nous aviez prévenu, Pascal.
C'est pas gagné ce soir. Comme disait Aimé Jacquet, attention, grand danger. Je vous dis grand danger ce soir.
Après, même les Suisses n'y croyaient pas.
Hein. Je vais regarder, mais je pense qu'on va se prendre une claque monstrueuse. Parce qu'on est mauvais, on est pathétique en foot. En ski, je dis pas, en tennis non plus, mais en foot, on est lamentable. Si on gagne, je serais très content, mais je ne mettrais pas 2 francs dessus.
Ouais, je crois qu'ils nous ont bien eu avec leur discours.
Au revoir les petits Frenchies, à bientôt. Évidemment que j'y croyais.
Mais ouais, mais qui aurait pu imaginer aussi cette séance de tir au but et se louper de Kylian Mbappé? On aurait dû bien enregistrer les propos du joueur en 2017.
Il faut un mental à toute épreuve.
parce que du jour au lendemain, et ça c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite.
Et quelle est la responsabilité du chef de l'État? Tiens, Emmanuel Macron a-t-il un rôle dans cette défaite?
Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière.
Ah bah oui, on a vu ce que ça a donné. Hein.
Allez, c'est parti, il est arrêté.
Bon, relativisons, n'est-ce pas Patrice?
Ça sera toujours les champions du monde.
Mais oui, allez, tiens, il va être l'heure de se quitter.
Ciao.
Vous avez dit ciao?
Oui, j'ai dit ciao, c'est pas terrible.
Non,
au revoir.
C'est super.
Au revoir, pardon, je me... Au revoir.
Bise.
Bise à tous, et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec un message pour Didier Deschamps et tous les Bleus. On est champion du monde.
Un gagnant pour Elton John, c'est Olivia Maurice qui habite Franqueville-Saint-Pierre, qui dit j'adore Elton John, j'irai avec ma fille 30 ans qui aime la musique et qui sera très contente l'année prochaine. Bravo Olivia Maurice de Franqueville-Saint-Pierre.
À tous les déçus, deux places seront mises en jeu dans l'émission de Flavie dans quelques secondes.
Merci Greg, Flavie justement.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.